Hello, Mortimer. Ah, mon cher Black. Désolé d'interrompre vos vacances, Mortimer, mais ça va mal.
Nesta!
Oui, monsieur.
Faites mes bagages.
Bien, monsieur.
Mais capitaine, vous n'allez pas...
Inutile d'insister, je lève l'ancre.
Corne debout! La barre à bâbord, tout! Arrêt à virer!
Alix, laisse ton bouclier, viens!
Vite! Les gladiateurs gagnent sur nous!
Captivant, captivant.
Allô?
Commandant Moran?
Oui?
Mon lieutenant, vous me laissez faire équipe avec Tanguy, s'il vous plaît?
Accordez la verdure,
ah,
vous parlez avec Tanguy.
Captivant, captivant. Le magazine de la bande dessinée.
Voici Raskar Kapak, celui qui déchaîne le feu du ciel.
Captivant, captivant.
Premier, Michel Vaillant, sur Vaillant numéro 10.
Captivant, une émission de Marc Dacier.
Je bois le restant de ma gourde de potion magique. Et on y va.
Tel un insecte, il adhère aux parois et ne connaît pas le vertige. Doté d'une force colossale, il possède un sixième sens, une sorte de radar qui lui permet d'anticiper la proximité d'un danger. Pour se déplacer dans les airs, il a utilisé ses dons de chimiste pour fabriquer un ingénieux dispositif accroché autour de chacun de ses poignets et qui lui permet de projeter une toile semblable à celle d'une araignée. Il s'agit bien sûr de Spider-Man, dont Captivant vous raconte ce soir la saga avec une émission spéciale réalisée par Christian. Vous découvrirez dans un premier temps qui sont ses créateurs, puis vous écouterez une interview exclusive de l'un de ses dessinateurs, Mark Buckingham. Captivant vous décrira ensuite l'univers de l'homme-araignée avant d'en énumérer les adaptations télévisées et cinématographiques parfois pittoresques.
Dernière nouvelle, un homme-mastiff a échoué à braquage.
C'est pas un être humain. Mon frère l'a vu faire son nid dans la fontaine de Lincoln Center.
Je crois que c'est un être humain, enfin un homme, je veux dire, ou même une femme.
Hey Bobby, regarde-moi ce truc-là.
Lève les mains en l'air, ça envoie des fils. Et il grimpe sur tous ses fils comme sur une toile.
Je vois sa toile, c'est comme sa signature. Et là, je sais que l'homme-araignée est passé par là.
Ce type nous protège, et nous, il protège les citoyens.
Ah, sûrement une espèce de travelot. C'est sûrement un barjot.
C'est un ringard, je déteste ce type.
Bouge pas, chérie.
De la part de votre fidèle serviteur, l'araignée.
Un type avec 8 mains. Excitant.
Il a ce collant génial et ça lui serre les...
Dans son costume d'araignée, il est super vilain. Et on a tous envie de lui faire un super câlin. Le voilà, notre ami Spider-Man.
I'm so high, I can hear heaven.
C'était Chad Kroeger avec la chanson du film Spider-Man. Captivant, le magazine de la bande dessinée sur RVE s'intéresse ce soir à ce super-héros américain imaginé par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Steve Ditko. Stan Lee commence sa carrière en 1939 lorsqu'il est embauché par Martin Goodman, un éditeur spécialisé dans les pulps bon marché. Celui-ci, devant le succès remporté par les premiers comic books et surtout par Detective Comics et Action Comics et leurs héros Batman et Superman, décide de tenter lui aussi sa chance dans ce nouveau format. Il donne carte blanche à Stan Lee, dont le premier illustré s'intitule Marvel Mystery Comics. À partir de 1960, Stan Lee imagine tout un univers dont les premiers héros sont les quatre fantastiques, vite rejoints par Hulk, Thor, Iron Man, Doctor Strange, les Vengeurs ou encore les X-Men. Pas étonnant que le groupe Marvel soit vite surnommé la Maison des Idées. Stan Lee, pour sa part, est appelé « The Man ». Il faut dire qu'il a mis au point une méthode de travail très efficace que l'on baptise bientôt la méthode Lee et qui lui permet d'écrire le scénario en collaboration avec le dessinateur des Fantastiques, Jack Kirby, et les dialogues de pratiquement toutes les séries Marvel. La plus célèbre de ses créations a failli ne jamais voir le jour. Le comité éditorial de Marvel oppose à Stan Lee de nombreuses raisons pour le dissuader de consacrer une série à Spider-Man. Un héros qui s'appelle l'homme-araignée, ça ne peut pas marcher. Les gens ont peur des araignées, un héros adolescent ça ne fait pas sérieux, qu'il y ait des petits jeunes dans les seconds rôles d'accord mais pas dans le rôle titre, un super-héros qui dans sa vie privée est un gringalet coincé couvé par sa vieille tante, c'est une très mauvaise idée. Mais fin 1962, The Man sait qu'il a un coup à jouer. Le titre Amazing Fantasy va être supprimé et tout le monde se fiche de ce qui peut se passer dans son dernier numéro. Vous vous doutez de la suite, l'apparition de Spider-Man en couverture du dernier numéro d'Amazing Fantasy offre à Marvel le triomphe le plus retentissant de l'année. Et dès 1963, l'homme-araignée a son propre comic book, The Amazing Spider-Man. Pour qu'un personnage de BD devienne populaire, il faut la rencontre d'un scénariste de génie et d'un dessinateur qui soit sur la même longueur d'onde. Pour Spider-Man, ce dessinateur se nomme Steve Ditko. Son style est à l'opposé de celui du dessinateur vedette du groupe Marvel, Jack Kirby, dit le King. Le trait de Jack Kirby convient parfaitement à la description des super-héros. Ces personnages ont la stature nécessaire pour être crédibles, leurs muscles saillent, leurs visages traduisent la terreur ou la haine, les machines ont un caractère oppressant et effrayant. Les planches de Ditko, elles, ont toujours été peuplées d'êtres frêles. Extraterrestres à la silhouette gracile, vieillards fragiles au dos voûté, mécaniques précises et monstres de contes de fées. Steve Ditko ne peut rivaliser avec Kirby lorsqu'il s'agit de traduire une brutalité pure et aveugle, mais dans Spider-Man, la référence aux araignées implique une certaine élégance du trait, propre à transcrire la fragilité de l'insecte et son caractère aérien, toujours suspendu dans sa toile à mi-chemin du ciel et de la terre. Grâce à l'originalité et à la sensibilité de son trait, Steve Ditko a fait de Peter Parker un jeune homme crédible et humain.
Écoute, tu es en train de changer. Je le sais, il m'est arrivé exactement la même chose quand j'avais ton âge.
Non, non, pas exactement.
Oh, Peter. Ce sont là les années où un gamin commence à se transformer en l'homme qu'il sera pour le reste de sa vie. Faut pas te transformer en n'importe qui. Ce type, ce Flash Thompson, a probablement mérité ce qui lui est arrivé. Mais le fait que tu sois capable de le battre ne te donne pas le droit de le faire. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
À la suite de Stan Lee et Steve Ditko, de nombreux auteurs, parmi les meilleurs de la Maison des Idées, vont raconter la suite de la vie de Spider-Man. Citons John Romita, célèbre pour les formes généreuses qu'il donnait aux personnages féminins de la série, son fils John Romita Jr., John Byrne, Todd McFarlane, le créateur de Spawn, Joe Michael Straczynski, Paul Jenkins, Chris Claremont. Au fil des décennies, les aventures de l'homme-araignée sont déclinées en de nombreuses séries régulières venant s'ajouter à The Amazing Spider-Man, la série mère. Dans quelques minutes, j'aurai l'honneur et le plaisir de recevoir Mark Buckingham, qui a dessiné quelques numéros de Marvel Knights Spider-Man et de Spectacular Spider-Man, mais qui a surtout été le dessinateur attitré du comic book Peter Parker Spider-Man d'août 2000 à janvier 2003. Mais auparavant, on écoute Sum 41 avec une autre chanson extraite de la BO du film Spider-Man.
My bike is short.
Ils sont fous, ces Romains.
Marc Dacier.
Peter Parker et sa petite amie.
Qu'est-ce que vous voulez ?
Je veux trouver ton ami l'homme araignée. Dis-lui de me retrouver devant la tour de Westside à 3 heures.
Je sais pas où il est.
Trouve-le. Ou je l'épluche vivant comme un fruit mûr.
Si vous touchez un seul cheveu...
Tu feras quoi ?
Je reçois Mark Buckingham, une star de la bande dessinée internationale. Cet Anglais a été, au début des années 2000, l'un des dessinateurs attitrés de Spider-Man. Bonsoir Mark, peux-tu nous raconter comment tu es devenu un auteur Marvel ? How did you become a Marvel author ?
I think I'd grown up with a love of superhero comics. I mean, primarily Marvels through Marvel UK's production of comics like The Mighty World of Marvel.
J'ai grandi en lisant les séries Marvel dans leurs éditions britanniques dans les années
70.
Reproduit en noir et blanc, on pouvait y lire les grands classiques Marvel signés Stan Lee, Steve Ditko ou John Romita, les quatre fantastiques, Daredevil. Autant de personnages très différents que ceux que nous avions en Grande-Bretagne à cette époque. C'était très excitant pour moi, notamment le dynamisme d'un dessin tel que celui de Jack Kirby, qui m'a complètement explosé à la figure quand j'avais 6 ou 7 ans.
Marvel strips that I'd read in those UK reprints meant a lot to me, and I did grow to love those characters from an early age.
C'est certain, les classiques Marvel que j'ai lus quand j'étais enfant ont eu une grande importance pour moi et j'ai grandi en aimant ces super-héros. Mais je n'avais pas forcément envie de les dessiner à l'époque. J'étais plus intéressé par l'idée de créer moi-même mes propres personnages plutôt que par celle de copier la création de quelqu'un d'autre. Cependant, travailler pour Marvel, ça a été fantastique. J'ai adoré cette façon nostalgique de revenir dans l'univers de mon enfance en donnant ma propre interprétation de héros mythique. Mais ce n'était pas un accomplissement ni un but.
Because of the movement and the fluidity of the figure work and all that sort of thing, and also I mean fight scenes and.
Spider-Man est le personnage avec lequel j'ai le mieux pu m'identifier. Le dessiner, c'était très amusant, et c'était pour moi un défi parce que je devais rendre au mieux la fluidité de ses mouvements et les scènes de combat. Bref, le dynamisme propre aux super-héros, qui n'est pas une chose que je sais dessiner naturellement. Je suis plus à l'aise quand je dois dessiner des situations quotidiennes, des gens qui discutent au pub, qui marchent dans un parc.
But it only has a limited appeal to me, and certainly I feel now having drawn pretty much every Marvel character.
Mais ça a été une bonne expérience de travailler sur les super-héros, même si j'en ai atteint les limites. J'ai maintenant dessiné tous les héros Marvel qui m'intéressaient et je n'ai pas très envie d'y revenir. Je préfère à présent créer de toutes pièces mes propres personnages. Mark Buckingham, merci. Tout de suite, on écoute Archive avec une chanson intitulée Skyscraper, gratte-ciel.
Down to the ground, skyscraper. You I never feel what it's like to be, or how it seems to me. It's all man-made material, scribbled down by the architectures, parallel lines on the paper.
Captivant, le magazine de la BD vous raconte ce soir la saga du plus populaire des super-héros américains, Spider-Man. Sous le masque de Spider-Man se dissimule un certain Peter Parker. Au début, ce n'est qu'un adolescent orphelin élevé par sa tante May et son oncle Ben. Étudiant brillant mais chétif, il a du mal à se faire accepter par ses condisciples et subit continuellement leurs railleries. Un jour, à la suite d'une expérience à laquelle il assiste, il est mordu par une araignée radioactive. Cette morsure va lui conférer des super-pouvoirs. La capacité d'adhérer aux parois, une force et une agilité hors du commun, ainsi qu'un sens d'araignée l'avertissant des dangers imminents. Dans un premier temps, Peter Parker va mettre à profit ses pouvoirs fraîchement acquis pour gagner de l'argent sur les rings de catch. Mais très vite, un drame va changer sa vie. Il laisse un voleur s'échapper alors qu'il aurait pu très facilement l'arrêter, prétextant que ce n'est pas son problème. Peu de temps après, son oncle Ben est tué par un cambrioleur. Ivre de colère, Peter se lance à la poursuite de l'assassin qui, une fois arrêté, se révèle être le voleur qu'il n'avait pas daigné appréhender. À partir de cet instant, sa vocation sera de lutter contre le crime sous l'identité de Spider-Man, l'homme-araignée. L'étudiant malingre est devenu un super-héros. Mais il est écrit que sa vie ne sera jamais facile et voilà que son combat suscite l'incompréhension d'une partie du public, influencé par le principal adversaire de Spider-Man, J. Jonah Jameson. Éditeur du journal Le Daily Bugle, Jameson se sert de son quotidien pour accuser Spider-Man de tous les crimes et condamner ses interventions qui reviennent d'après lui à l'établissement d'une justice parallèle et mettent en danger la liberté et les droits de tous les citoyens et même des criminels qu'arrête l'homme-araignée.
Le bouffon vert, ça vous plaît ? J'ai trouvé ça tout seul. Tous ces tarés doivent avoir un nom à présent.
Monsieur Jameson, Spider...
Hoffman ?
Oui ?
Déposez tout de suite le nom de bouffon vert. Je veux 25 scènes chaque fois qu'on le prononcera.
Pourquoi pas la vermine verte ? Spider-Man n'a pas attaqué la ville, il venait la défendre, c'est de la médisance.
Je suis pas d'accord, et je n'apprécie pas. La médisance, c'est en parole. Dans la presse, on dit calomnie.
L'ennui, c'est que vous ne faites confiance à personne.
Mais si, à mon barbier. Vous vous prenez pour son avocat ? Allez, dehors, qu'il me fasse un procès pour devenir riche comme tout le monde.
Pour gagner de l'argent, subvenir à ses besoins et à ceux de sa tante, en plus de ses frais d'études, Peter Parker doit rapidement trouver un travail. Possédant un appareil photo, il fait des photos de lui-même en tenue de Spider-Man, puis va les proposer à différents journaux. Par une étrange ironie du sort, c'est le Daily Bugle qui va les prendre. Et c'est ainsi que Peter travaille désormais pour J. Jonah Jameson, tout en s'efforçant d'empêcher celui-ci de démasquer Spider-Man. Peter Parker aura d'ailleurs bien du mal à garder sa double identité secrète auprès de l'opinion publique, de la police, de ses petites amies, de sa tante cardiaque et des criminels qu'il rencontrera. Il échouera d'ailleurs plus d'une fois et plusieurs personnes le démasqueront. Cinq de ses ennemis, les deux bouffons verts, Norman et Harry Osborn, le caméléon, le chacal et Venom, s'en serviront contre lui au point de mettre sa famille en danger. La petite amie et future femme de Peter Parker, Mary Jane, est au courant depuis la première apparition de Spider-Man, mais elle mettra très longtemps à le lui dire et plus encore à se faire à cette idée.
Je crois que j'ai toujours su, durant tout ce temps, qui tu étais vraiment.
Alors tu sais pourquoi on ne peut pas être ensemble. Spider-Man aura toujours de nombreux ennemis. Je ne peux pas te laisser courir ce risque. Je serai toujours Spider-Man.
Souvent, lorsqu'un super-héros rencontre un grand succès, son éditeur décide d'en créer une version féminine. Il existe une Supergirl, une Batgirl et même une She-Hulk. Trois femmes ont porté le costume de Spider-Woman. Jessica Drew, devenue membre des Nouveaux Vengeurs, Julia Carpenter, dont on a un peu perdu la trace, et Martha Matty Franklin, que l'on a vue dans la série Alias. Quant à Spider-Girl, elle vit dans un univers alternatif baptisé Univers MC2 pour Marvel Comics 2. Peter Parker y a arrêté sa carrière de super-héros suite à un dernier combat contre le Bouffon Vert qui l'a laissé handicapé. 15 ans plus tard, sa fille, May Parker, reprend son costume. La série Spider-Girl s'est arrêtée au numéro 100 mais a été relancée sous le titre The Amazing Spider-Girl. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame he's ignored, action is his reward. Look out, here comes the Spider-Man. Comes the Spider-Man. C'est certainement grâce à son générique inoubliable que le premier dessin animé Spider-Man a marqué les esprits. Vous venez d'en entendre une version moderne qui figure sur la bande originale du film Spider-Man 2. Ne nous privons pas du plaisir d'en écouter la version originale. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud. He's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame, he's ignored. Action is his reward to him. Life is a great big pain. Wherever there's a pain, you'll find a Spider-Man.
Captivant, 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 captivant.
1 000 000 000 000 000 000 chevaux.
Marc Dacier.
De 1967 à 1970, pendant trois saisons, la première adaptation animée de Spider-Man connaît un grand succès sur les écrans de la chaîne américaine ABC. Même si l'animation en est un peu cheap, avec des rues de New York pratiquement vides, cette série a l'avantage de respecter le comic book de Marvel. Tournée cette fois en live, la série télévisée Amazing Spider-Man marquera beaucoup moins les esprits que le dessin animé. Après un pilote, 13 épisodes sont diffusés entre 1977 et 1979. Malgré une grosse audience, cette série est très critiquée. Et pour cause, elle souffre d'effets spéciaux désastreux. À un moment, Spider-Man doit prendre un taxi. De scénarios très mauvais, de l'absence totale des super-vilains du comics et d'un casting catastrophique. Vêtu d'un costume ridicule qui ressemble à un vieux pyjama et trop vieux pour le rôle, c'est un certain Nicolas Hammond qui incarne Peter Parker, opposé à un méchant qui fait penser à un caïd du pauvre. Spider-Man and His Amazing Friends est le titre d'une nouvelle adaptation en dessin animé. 50 épisodes sont diffusés de 1981 à 84, dans lesquels Spider-Man fait équipe avec un X-Man, Bobby Drake alias Iceberg, et avec une super-héroïne, Firestar. Il faut ensuite attendre 10 nouvelles années pour revoir l'homme-araignée sur un écran de télévision. C'est le formidable succès de la série animée Batman qui pousse Marvel en 1994 à lancer Spider-Man The Animated Series. Diffusé jusqu'en 1998, ce nouveau dessin animé est une réussite. Surfant sur ce succès, Marvel lance en 1999 sur Fox Kids un nouveau dessin animé dont le scénario se situe sur une terre alternative. Ne suivant pas l'histoire de la précédente série, Spider-Man Unlimited subit un four monumental et est remplacé au bout de 3 épisodes seulement par les Digimons. Ça calme. En 2003, Spider-Man est pour la première fois adapté en 3D. Intitulée Spider-Man The New Animated Series, cette nouvelle série télévisée ressemble à la mise au goût du jour effectuée alors sur le comic book par Ultimate Spider-Man. D'ailleurs, le dessin animé et la BD partagent le même scénariste, Brian Bendis. Voici la musique du générique. Pour rigoler un peu, n'oublions pas les adaptations japonaises, turques et indiennes de Spider-Man. La plus fidèle est la version japonaise, intitulée Tokusatsu et produite par la compagnie Toei en 1978. Bénéficiant très officiellement des droits d'adaptation pour 4 ans, les auteurs de cette série respectent la base du personnage mais y ajoutent des nouveautés typiquement nippones. Notre héros, interprété par Yamashiro Takuya, roule en Spider-Mobile et comme tout héros japonais possède un robot géant. Encore plus drôle, Three Dev Adam, la version turque. Dans ce film, le catcheur mexicain Santo s'associe avec Captain America pour combattre Spider-Man qui terrorise la Turquie. Non seulement notre tisseur est devenu un méchant, particulièrement sadique, mais il ne possède plus aucun pouvoir. Et son costume vert et rouge, décoré d'un logo ressemblant plus à un cafard qu'à une araignée, ne parvient pas à dissimuler son gros bide. Carrément hilarante, la version indienne. Spider-Man est une femme et épouse Superman. Une comédie musicale intitulée Indian Superman 2, d'un kitsch absolu et doté de séquences de vol réalisées avec des incrustations tellement incrustées qu'on voit à travers notre couple de super-héros. On a longtemps cru que le réalisateur James Cameron serait l'auteur des vrais débuts de Spider-Man au cinéma. Il a travaillé pendant des années sur le projet avant d'en être finalement débarqué par ses producteurs chez Sony, ceux-ci ayant probablement jugé qu'il devenait trop gourmand après Titanic. L'écriture est alors confiée à David Koepp, auteur des scénarios de Mission Impossible et Jurassic Park 2, et la réalisation à un fan du comic book Sam Raimi. Sorti en 2000, le film est un triomphe critique et commercial. À l'exception de Willem Dafoe, qui joue le bouffon vert, Sam Raimi a réussi à imposer un casting d'inconnus. C'est l'impeccable Tobey Maguire qui interprète Peter Parker, tandis que le rôle de Mary Jane est tenu par Kirsten Dunst, la future Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Respectant le personnage et son univers, le film Spider-Man utilise les nouveaux outils technologiques pour réaliser les voltiges de l'homme-araignée. Raimi concrétise le fantasme de plusieurs générations de lecteurs et fait de Spider-Man l'un des plus gros blockbusters de tous les temps, avec plus de 821 millions de dollars de recettes en salle.
Not everyone is meant to make a difference, but for me, the choice to live an ordinary life is no longer an option.
And I've never even seen his face. You are amazing.
Encore plus réussi que son prédécesseur et réalisé par la même équipe, le film Spider-Man 2 sort sur les écrans américains en juin 2004. Le tisseur y affronte un autre de ses ennemis récurrents, le Docteur Octopus, interprété par un extraordinaire Alfred Molina. Le troisième volet de la première trilogie cinématographique de Spider-Man déferle sur les écrans du monde entier en mai 2007. Et cette fois, Sam Raimi n'hésite pas à y mettre en image la confrontation de l'homme-araignée avec trois super-vilains, le second bouffon vert, l'homme-sable et surtout Venom. C'est la fin de ce numéro spécial de Captivant réalisé par Christian et consacré à Spider-Man. On se quitte avec le thème musical des films de Sam Raimi, une musique composée par Danny Elfman. Bonsoir à tous et à la semaine prochaine.